Étienne Bonneau de Condillac, 1755, Traité des animaux. Première partie, du système de Descartes et de l'hypothèse de M. de Buffon. Chapitre 6. Examen des observations que M. de Buffon a faites sur les sens. Les philosophes qui croient que les bêtes pensent ont fait bien des raisonnements pour prouver leurs sentiments, mais le plus solide de tous leur a échappé. Prévenus que nous n'avons qu'à ouvrir les yeux pour voir comme nous voyons, ils n'ont pas pu démêler les opérations de l'âme dans l'usage que chaque animal fait de ses sens. Ils ont cru que nous-mêmes nous nous servons des nôtres, mécaniquement et par instinct, et ils ont donné de fortes armes à ceux qui prétendent que les bêtes sont de purs automates. Il me semble que si M. de Buffon avait plus approfondi ce qui concerne les sens, il n'aurait pas fait tant d'efforts pour expliquer mécaniquement les actions des animaux. Afin de ne laisser aucun doute sur le fond de son hypothèse, il faut donc détruire toutes les erreurs qui l'y ont engagé, ou qui du moins lui ont fermé les yeux à la vérité. D'ailleurs, c'est d'après cette partie de son ouvrage que le traité des sensations a été fait, si l'on en croit certaines personnes. La vue est le premier sens qu'il observe. Après quelques détails anatomiques inutiles à l'objet que je me propose, il dit qu'un enfant voit d'abord tous les objets doubles et renversés. Ainsi, les yeux, selon lui, voient par eux-mêmes des objets. Ils en voient la moitié plus que lorsqu'ils ont reçu des leçons du toucher, ils aperçoivent des grandeurs, des figures, des situations. Ils ne se trompent que sur le nombre et la position des choses, et si le tact est nécessaire à leur instruction, c'est moins pour leur apprendre à voir que pour leur apprendre à éviter les erreurs où ils tombent. Barclay en a pensé différemment, et M. de Voltaire a ajouté de nouvelles lumières aux sentiments de cet Anglais. Il méritait bien l'un et l'autre que M. de Buffon leur fit voir en quoi ils se trompent, et qu'il ne se contenta pas de supposer que l'œil voit naturellement des objets. Il est vrai que cette supposition n'a pas besoin de preuves pour le commun des lecteurs. Elle est tout à fait conforme à nos préjugés. On aura toujours bien de la peine à imaginer que les yeux puissent voir des couleurs sans voir de l'étendue. Or, s'ils voient de l'étendue, ils voient des grandeurs, des figures et des situations. Mais ils n'aperçoivent par eux-mêmes rien de semblable et par conséquent, il ne leur est pas possible de tomber dans les erreurs que leur attribue M. de Buffon. Aussi l'aveugle de chez Eldon n'a-t-il jamais dit qu'il vit les objets doubles et dans une situation différente de celle où il les touchait. Mais dira-t-on les images qui se peignent sur la rétine sont renversées et chacune se répète dans chaque œil? Je réponds qu'il n'y a d'image nulle part. On les voit, répliquera-t-on, et on citera l'expérience de la chambre obscure. Tout cela ne prouve rien, car où il n'y a point de couleur, il n'y a point d'image. Or, il n'y a pas plus de couleurs sur la rétine et sur le mur de la chambre obscure que sur les objets. Ceux-ci n'ont d'autre propriété que de réfléchir les rayons de lumière, et suivant les principes mêmes de M. de Buffon, il n'y a dans la rétine qu'un certain ébranlement. Or, un ébranlement n'est pas une couleur. Il ne peut être que la cause occasionnelle d'une modification de l'âme. En vain, la cause physique de la sensation est double. En vain, les rayons agissent dans un ordre contraire à la position des objets. Ce n'est pas une raison de croire qu'il y ait dans l'âme une sensation double et renversée. Il ne peut y avoir qu'une manière d'être, qui par elle-même n'est susceptible d'aucune situation. C'est au toucher à apprendre aux yeux à répandre cette sensation sur les surfaces qu'ils parcourent. Et lorsqu'ils sont instruits, ils ne voient ni double ni renversé. Ils aperçoivent nécessairement les grandeurs colorées dans le même nombre et dans la même position que le toucher aperçoit les grandeurs palpables. Il est singulier qu'on ait cru le toucher nécessaire pour apprendre aux yeux à se corriger de deux erreurs où il ne leur est pas possible de tomber. On demandera sans doute comment, dans mes principes, il peut se faire qu'on voit quelquefois double, il est aisé d'en rendre raison. Lorsque le toucher instruit les yeux, il leur fait prendre l'habitude de se diriger tous deux sur le même objet, de voir suivant des lignes qui se réunissent au même lieu, de rapporter chacun au même endroit la même sensation, et c'est pourquoi il voit simple. Mais si dans la suite quelque cause empêche ces deux lignes de se réunir, elles aboutiront à des lieux différents. Alors les yeux continueront chacun de voir le même objet parce qu'ils ont l'un et l'autre contracté l'habitude de rapporter au dehors la même sensation. Mais ils verront double, parce qu'il ne leur sera plus possible de rapporter cette sensation au même endroit. C'est ce qui arrive, par exemple, lorsqu'on se presse le coin d'un œil. Lorsque les yeux voient double, c'est donc parce qu'ils jugent d'après les habitudes mêmes que le tact leur a fait contracter. Et on ne peut pas accorder à M. de Buffon que l'expérience d'un homme louche qui voit simple, après avoir vu double, prouve évidemment que nous voyons en effet les objets doubles et que ce n'est que par l'habitude que nous les jugeons simples. Cette expérience prouve seulement que les yeux de cet homme ne sont plus louches, ou qu'ils ont appris à se faire une manière de voir conforme à leur situation. Tels sont les principes de M. de Buffon sur la vue. Je passe à ce qu'il dit sur Louis. Après avoir observé que Louis ne donne aucune idée de distance, il remarque que lorsqu'un corps sonore est frappé, le son se répète, comme les vibrations. Cela n'est pas douteux. Mais il en conclut que nous devons entendre naturellement plusieurs sons distincts, que c'est l'habitude qui nous fait croire que nous n'entendons qu'un son, et pour le prouver, il rapporte une chose qui lui est arrivée. Étant dans son lit, à demi endormi, il entendit sa pendule, et il compta 5 heures, quoiqu'il n'en fût qu'une, et qu'elle n'en eût pas sonné davantage, car la sonnerie n'était point dérangée. Or, il ne lui fallut qu'un moment de réflexion pour conclure qu'il venait d'être, dans le cas où serait quelqu'un qui entendrait pour la première fois, et qui, ne sachant pas qu'un coup ne doit produire qu'un son, jugerait de la succession des différents sons sans préjugés, aussi bien que sans règle, et par la seule impression qu'ils font sur l'organe, et dans ce cas il entendrait en effet autant de sons distincts qu'il y a de vibrations successives dans le corps sonore. Les sons se répètent comme les vibrations, c'est-à-dire sans interruption. Il n'y a point d'intervalle sensible entre les vibrations, il n'y a point de silence entre les sons, voilà pourquoi le son paraît continu, et je ne vois pas qu'il soit nécessaire d'y mettre plus de mystère. M. de Buffon a supposé que l'œil voit naturellement des objets dont il ne doit la connaissance qu'aux habitudes que le tact lui a fait prendre, et il suppose ici que l'oreille doit à l'habitude un sentiment qu'elle a naturellement. L'expérience qu'il apporte ne prouve rien, parce qu'il était à demi endormi quand il l'a faite. Je ne vois pas pourquoi ce demi-sommeil l'aurait mis dans le cas d'un homme qui entendrait pour la première fois. Si c'était là un moyen de nous dépouiller de nos habitudes et de découvrir ce dont nous étions capables avant d'en avoir contracté, il faudrait croire que le défaut des métaphysiciens a été jusqu'ici de se tenir trop éveillés, mais cela ne leur a pas empêché d'avoir des songes, et c'est dans ces songes qu'on pourrait dire qu'il n'entre souvent aucune sorte d'idée. Un sommeil profond est le repos de toutes nos facultés, de toutes nos habitudes. Un demi-sommeil est le demi-repos de nos facultés. Il ne leur permet pas d'agir avec toute leur force. Et comme un réveil entier nous rend toutes nos habitudes, un demi-réveil nous les rend en partie. On ne s'en sépare donc que pour dormir à demi. Les autres détails de M. de Buffon sur Louis n'ont aucun rapport à l'objet que je traite. Il nous reste à examiner ce qu'il dit sur les sens en général. Après quelques observations sur le physique des sensations et sur l'organe du toucher, qui nous donne des idées exactes de la forme des corps, que parce qu'il est divisé en parties mobiles et flexibles, il se propose de rendre compte des premiers mouvements, des premières sensations et des premiers jugements d'un homme dont le corps et les organes seraient parfaitement formés, mais qui s'éveillerait tout neuf pour lui-même et pour tout ce qui l'environne. Cet homme, qu'on verra plus souvent à la place de M. de Buffon, qu'on ne verra M. de Buffon à la sienne, nous apprend que son premier instinct a été plein de joie et de trouble. Mais devons-nous l'en croire ? La joie est le sentiment que nous goûtons lorsque nous nous trouvons mieux que nous n'avons été, ou du moins aussi bien, et que nous sommes comme nous pouvons désirer d'être. Elle ne peut donc se trouver que dans celui qui a vécu plusieurs moments, qui a comparé les états par où il a passé. Le trouble est l'effet de la crainte et de la méfiance, sentiment qui impose des connaissances que cet homme certainement n'avait point encore. S'il se trompe, ce n'est pas qu'il ne réfléchit déjà sur lui-même. Il remarque qu'il ne savait ce qu'il était, où il était, d'où il venait. Voilà des réflexions bien prématurées. Il ferait mieux de dire qu'il ne s'occupait point encore de tout cela. Il ouvre les yeux, aussitôt il voit la lumière, la voûte céleste, la verdure de la terre, le cristal des eaux, et il croit que tous ces objets sont en lui et font partie de lui-même. Mais comment des yeux ont-ils appris à démêler tous ces objets? Et s'il les démêle, comment peut-il croire qu'ils font partie de lui-même? Quelques personnes ont eu de la peine à comprendre que la statue, bornée à la vue, ne se crut que lumière et couleur. Il est bien plus difficile d'imaginer que cet homme, qui distingue si bien les objets les uns des autres, ne sache pas les distinguer de lui-même. Cependant, persuadé que tout est en lui, c'est-à-dire selon M. de Buffon sur sa rétine, car c'est là que sont les images, il tourne ses yeux vers l'astre de la lumière. Mais cela est encore bien difficile à concevoir. Tourner les yeux vers un objet, n'est-ce pas le chercher hors de soi? Peut-il savoir ce que c'est que diriger ses yeux d'une façon plutôt que d'une autre? En sent-il le besoin? Sait-il même qu'il a des yeux? Remarquez que cet homme se meut sans avoir aucune raison de se mouvoir. Ce n'est pas ainsi qu'on a fait agir la statue. L'éclat de la lumière le blesse. Il ferme la paupière et, croyant avoir perdu tout son être, il est affligé, saisi d'étonnement. Cette affliction est fondée, mais elle prouve que le premier instant n'a pu être plein de joie. Car si l'affliction doit être précédée d'un sentiment agréable qu'on a perdu, la joie doit l'être d'un sentiment désagréable dont on est délivré. Au milieu de cette affliction, et les yeux toujours fermés sans qu'on sache pourquoi, il entend le chant des oiseaux, le murmure des airs. Il écoute longtemps, et il se persuade bientôt que cette harmonie est lui. Mais écouter n'est pas exact. Cette expression suppose qu'il ne confond pas les sons avec lui-même. On dit d'ailleurs qu'il hésite pour se persuader que cette harmonie est lui, car il écoute longtemps. Il devait le croire d'abord et s'en chercher à se le persuader. Je pourrais demander d'où il sait que les premiers sons qu'il a entendus étaient formés par le chant des oiseaux et le murmure des airs. Il ouvre les yeux et fixe ses regards sur 1000 objets divers. Il voit donc encore bien plus de choses que la première fois. Mais il y a de la contradiction à fixer ses regards sur des objets et à croire comme il fait que ces objets sont tous en lui, dans ses yeux. Il ne peut pas savoir ce que c'est que fixer ses regards, ouvrir, fermer la paupière. Il sait qu'il est affecté d'une certaine manière, mais il ne connaît pas encore l'organe auquel il doit ses sensations. Cependant, il va parler en philosophe qui a déjà fait des découvertes sur la lumière. Il nous dira que ces 1000 objets, cette partie de lui-même lui paraît immense en grandeur par la quantité des accidents de lumière et par la variété des couleurs. Il est étonnant que l'idée d'immensité soit une des premières qu'il acquiert. Il aperçoit qu'il a la puissance de détruire et de produire à son gré cette belle partie de lui-même, et c'est alors qu'il commence à voir sans émotion et à entendre sans trouble. Il me semble au contraire que ce serait bien plutôt le cas d'être ému et troublé. Un air léger, dont il sent la fraîcheur, saisit ce moment pour lui apporter des parfums qui lui donnent un sentiment d'amour pour lui-même. Jusque-là, il ne s'aimait point encore. Les objets visibles, les sons, ces belles parties de son être, ne lui avaient point donné ce sentiment. L'odorat serait-il seul le principe de l'amour-propre? Comment sait-il qu'il y a un air léger? Comment sait-il que les parfums lui sont apportés de dehors par cet air léger, lui qui croit que tout est en lui? Ne dirait-on pas qu'il a déjà pesé l'air? Enfin, ces parfums ne lui paraissent-ils pas des parties de lui-même? Et si cela est, pourquoi juge-t-il qu'ils lui sont apportés? Amoureux de lui-même, pressé par les plaisirs de sa belle et grande existence, il se lève tout d'un coup et se sent transporté par une force inconnue. Et où transporté? Pour remarquer pareille chose, ne faut-il pas connaître un lieu hors de soi? Et peut-il avoir cette connaissance, lui qui voit tout en lui? Il n'a point encore touché son corps. S'il le connaît, ce n'est que par la vue. Mais où le voit-il? Sur sa rétine, comme tous les autres objets. Son corps, pour lui, n'existe que là. Comment donc cet homme peut-il juger qu'il se lève et qu'il est transporté? Enfin, quel motif peut le déterminer à se mouvoir? C'est qu'il est pressé par les plaisirs de sa belle et grande existence. Mais pour jouir de ses plaisirs, il n'a qu'à rester où il est. Et ce n'est que pour en chercher d'autres qu'il pourrait penser à se lever, à se transporter. Il ne se déterminera donc à changer de lieu que lorsqu'il saura qu'il y a un espace hors de lui, qu'il a un corps, que ce corps, en se transportant, peut lui procurer une existence plus belle et plus grande. Il faut même qu'il ait appris à en régler les mouvements. Il ignore toutes ces choses et cependant, il va marcher et faire des observations sur toutes les situations où il se trouvera. À peine fait-il un pas que tous les objets sont confondus, tout est en désordre. Je n'en vois pas la raison. Les objets qu'il a si bien distingués au premier instant doivent dans celui-ci disparaître tous ou en partie pour faire place à d'autres qu'il distinguera encore. Il ne peut pas plus y avoir de confusion et de désordre dans un moment que dans l'autre. Surpris de la situation où il se trouve, il croit que son existence fuit, et il devient immobile sans doute pour l'arrêter, et pendant ce repos, il s'amuse à porter sur son corps, que nous avons vu n'exister pour lui que sur sa rétine, une main qu'il n'a point encore appris à voir hors de ses yeux. Il la conduit aussi sûrement que s'il avait appris à en régler les mouvements, et il parcourt les parties de son corps, comme si elles lui avaient été connues avant qu'il les eût touchées. Alors il remarque que tout ce qu'il touche sur lui rend à sa main sentiment pour sentiment, et il aperçoit bientôt que cette faculté de sentir est répandue dans toutes les parties de son être. Il ne sent donc toutes les parties de son être qu'au moment où il découvre cette faculté. Il ne les connaissait pas lorsqu'il ne les sentit pas. Elles n'existaient que dans ses yeux. Celles qu'il ne voyait pas n'existaient pas pour lui. Nous lui avons cependant entendu dire qu'il se lève, qu'il se transporte et qu'il parcourt son corps avec la main. Il remarque ensuite qu'avant qu'il se fût touché, son corps lui paraissait immense, sans qu'on sache où il a pris cette idée d'immensité. La vue n'a pas pu lui donner, car lorsqu'il voyait son corps, il voyait aussi les objets qui l'environnaient et qui par conséquent le limitaient. Il a donc bien tort d'ajouter que tous les autres objets ne lui paraissent en comparaison que des points lumineux. Ce qui traçait sur sa rétine des images plus étendues devait certainement lui paraître plus grand. Cependant, il continue de se toucher et de se regarder. Il a, de son aveu, les idées les plus étranges. Le mouvement de sa main lui paraît une espèce d'existence fugitive, une succession de choses semblables. On peut bien lui accorder que ses idées sont étranges. Mais ce qui me paraît plus étrange encore, c'est de la manière dont il découvre qu'il y a quelque chose hors de lui. Il faut qu'il marche la tête haute et levée vers le ciel, qu'il aille se heurter contre un palmier, qu'il porte la main sur ce corps étranger, et qu'il le juge tel parce qu'il ne lui rend pas sentiment pour sentiment. Quoi ? Lorsqu'il portait un pied devant l'autre, n'éprouvait-il pas un sentiment qui ne lui était pas rendu ? Ne pouvait-il pas remarquer que ce que son pied touchait n'était pas une partie de lui-même ? N'était-il pas réservé qu'à la main de faire cette découverte ? Et si jusqu'alors il a ignoré qu'il y eût quelque chose hors de lui, comment a-t-il pu songer à se mouvoir, à marcher, à porter la tête haute et levée vers le ciel ? Agité par cette nouvelle découverte, il a peine à se rassurer. Il veut toucher le soleil, il ne trouve que le vide désert. Il tombe de surprise en surprise, et ce n'est qu'après une infinité d'épreuves qu'il apprend à se servir de ses yeux pour guider sa main, qui devait bien plus tôt lui apprendre à conduire ses yeux. C'est alors qu'il est suffisamment instruit. Il a l'usage de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du toucher. Il se repose à l'ombre d'un bel arbre. Des fruits d'une couleur vermeille descendent en forme de grappe à la portée de sa main. Il en saisit un, il le mange, il s'endort, se réveille, regarde à côté de lui, se croit doublé, c'est-à-dire qu'il se trouve avec une femme. Telles sont les observations de M. de Buffon sur la vue, l'ouïe et les sens en général. Si elles sont vraies, tout le traité des sensations porte à faux.